Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille! Familial, 2 jours. Moniparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami, Roger Yangang, va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution.
Oui, bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 372. Il fait présentement 17 degrés à l'extérieur de nos studios. On nous annonce une belle journée et c'est tant mieux. La fin de semaine devra être chaude, à ce qu'on dit. En tout cas, c'est ça que Météo Média nous dit. Comment ça va ce matin? Là, on va y aller tout de suite dans les choses sérieuses. As-tu fait ton lit ce matin? As-tu fait ton lit comme David Goggin? As-tu fait ton lit comme Joe Rogan? As-tu fait ton lit comme le maire de Kiev qui est au front, Vitali Klitschko? As-tu fait ton lit comme l'agent immobilier Jean-Yves Lavoie de Angel & Volker? As-tu fait ton lit comme Simon Chartrand de chez Cascade? 30 ans chez Cascade, un vrai métronome. Mais tu sais, en faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Ben non, t'as pas été sa planète Mars, t'as pas fait une opération à cœur ouvert, mais t'as réussi le premier geste de ta journée. Premier sujet pour toi, c'est une suggestion sur Netflix. Vendredi, le 9 septembre, va être disponible la 5e saison de Cobra Kai, qui est un sequel du bon vieux Karate Kid avec Ralph Macchio. Attends, là, je vais prendre une gorgée de café. Vendredi, la nouvelle saison de Cobra Kai, nous aurons droit à 10 épisodes. Oui, Cobra Kai, je l'admets, ça fait très adolescent, ça fait Riverdale. Mais sais-tu quoi? Moi, j'aime ça. Moi, j'étais un enfant de Karate Kid. Je suis un enfant des années 80. J'ai vécu mon enfance dans les années 80. Je suis né sur les 13. Mon enfance, mon début d'adolescence, c'est dans les années 80. Et c'est des belles années. Puis Karate Kid me rappelle ça. Puis Cobra Kai, c'est tout ça en même temps, à la sauce 2022. Puis j'aime ça retrouver ces personnages-là un instant. Là, maintenant, on a 3 factions, hein, vous le savez. Le Miyagi Dojo, le Cobra Kai, évidemment, puis le Eagle Fang. J'adore ça. Puis j'adore que un des personnages principaux soit ancré dans les années 80, dans ses goûts, dans sa musique, etc. Les personnages, c'est du bonbon. Puis là, on va avoir des personnages du Karate Kid 3 qui embarquent dans l'eau, qui étaient déjà là dans la saison 4. J'avais beaucoup aimé la saison 4. Puis ceux qui produisent, ceux qui écrivent Cobra Kai ont eu la permission des gens de Karate Kid. Et ce qu'ils font, c'est une suite logique de tout ça. T'sais. Moi, j'ai renié, tu vas rire, le Karate Kid de féminin et le Karate Kid avec le fils de Will Smith. Pour moi, c'est pas ça, Karate Kid. Karate Kid, ça doit simplement impliquer Ralph Macchio. T'sais. Et... Puis Cobra Kai nous donne ça, puis et plus, on revoit les personnages de la première mouture, du tome 2, du troisième opus. On voit les personnages. Oui, certes, ils ont vieilli, mais c'est le fun de les voir. Donc, saison 5, 10 épisodes, disponibles à partir de vendredi 9 septembre. Je peux te dire que moi, je vais me taper ça zip, d'une shot. Et chaque épisode, c'est pas long, c'est à peu près 30 minutes. Fait que ça va vite. Moi, j'aime bien ça, j'aime l'idée de tout ça. J'adore Cobra Kai. Prends une autre gorgée de café, parce qu'aujourd'hui, c'est du café pour tous. Autre, tant qu'à aller dans les suggestions, autre suggestion, toujours sur Netflix, ça s'appelle Chef Table. Ben, tu sais, j'en ai parlé souvent de Chef Table. Il y a eu Chef Table, l'original. Après, il y a eu Chef Table France. Par la suite, il y a eu Chef Table Barbecue. Puis là, surprise, on nous sort ça. C'est disponible maintenant. Je ne l'ai pas vu venir. Il y a Chef Table Pizza. Tu connais mon amour pour la pizza? On va voir. Il y a 6 épisodes de disponibles. Ça va être super intéressant. J'ai vu des previews. Ben, Chef Table, tu te trompes pas, c'est pas des reportages, c'est des documentaires, c'est léché, c'est bien fait. Ils vont en profondeur avec chacun de leurs sujets, chacun des chefs qu'ils rencontrent. Puis moi, j'adore ça. Pour moi qui est foodie, Chef Table, c'est l'ultime émission de bouffe. Pour qui aime la bouffe, tu comprends là la passion d'un chef, tu comprends là le moteur de son existence, tu comprends là pourquoi il fait ça. Et moi, je te suggère, t'as pas regardé des Chef Table encore? Pas grave, là, tu peux commencer par celui que tu veux. Commence par Chef Table Pizza. 6 épisodes, c'est un amoureux de la pizza. Sinon, tu vas découvrir à travers les Chef Table de tous ceux qu'il y a eu, un paquet de chefs, tu vas découvrir des gens passionnés et passionnants. Et ça, moi, je pense que c'est un de mes dadas que j'ai découvert à travers le temps, que je me suis rendu compte j'aime beaucoup de choses dans la vie, mais c'est pas tant que j'en aime tant que ça. C'est juste, ça m'intéresse, parce que ça m'intéresse de voir des gens passionnés. Fait qu'à force, je m'intéresse à peu importe le sujet. Quand je vois des gens passionnés, moi, ça me passionne. Ça me motive. J'aime ça. On va te donner un exemple. Jean-Yves Lavoie, un ami mais à qui je parle pas beaucoup de ce temps-là. Jean-Yves, il est agent immobilier. Bon. Mais je suis sûr que Jean-Yves, il me parle de son métier. Il va être passionnant, puis ça va m'intéresser, même si j'ai rien focal sur l'immobilier, moi, là. Mais je suis sûr que le sujet va m'intéresser, tu comprends? C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, les gens passionnés, ça m'intéresse dans la vie. Bref, Chef Table, c'est ça. C'est beaucoup ça. Un instant. On a le droit de boire du café, ce podcast-là, là. Quand même, hein? C'est free coffee this morning. Ce matin, café gratis pour tout le monde. Vous pouvez attendre en ligne chez nous à Montréal, là, Charles Nespresso, là, puis on fait des Nespresso Cup. Puis, ah ouais, un petit latte, un petit capuch, pas de problème. Donc, c'est ça, je te suggère fortement Chef Table Pizza. Il y a 6 épisodes et c'est disponible dès maintenant. Autre sujet, ben, t'as vu ça passer hier. Le Canadien a enfin signé Kirby Dack, le centre format géant, a signé un contrat de 4 ans à raison de 13,5 millions. Un instant, je vais juste aller sur rds.ca. Oh, c'est ça. Kirby Dack signe. A choisi de miser sur Kirby Dack. Bon. Donc, une entente passerait de 2 saisons, aurait été un pack de 4 ans avec un salaire moyen de 3,3 millions pour un total de 13,4 millions. Bon, c'est beaucoup d'argent, tu vas me dire, mais Dak a 21 ans, donc c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, s'il explose, c'est à bas prix. S'il flop, Ben, ça aura coûté cher, mais ça, c'est le pari que prend Ken Hughes. Et c'est un pari aussi pour Kirby Dack. Les deux parties ont pris un pari. Puis on va espérer que ça va être un pari gagnant pour tout le monde, parce que ça va être bon pour nous, les partisans. Kirby Dack, c'est un grand centre, en grandeur, je parle. On n'a pas eu souvent ça à Montréal, nous autres. Là. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas des statistiques bien, bien impressionnantes, mais en même temps, c'est un jeune homme. C'est sa troisième saison, quatrième saison qui va commencer dans la Ligue nationale. Il n'y a pas des statistiques très impressionnantes, comme je dis. En 152 parties, 19 buts, 40 passes, 59 points. Le gars, c'est plus un passeur qu'un marqueur, évidemment. 6 pieds 4, 200 livres. Premier choix de première ronde de Chicago en 2019. Troisième au total. Regardez voir c'était qui les autres. En avant de lui, il y avait Jack Hughes et Capo Caco qui n'a pas explosé non plus. Bref. Oh, excusez-moi. Puis en arrière d'eux, au 9e, il y a Trevor Zegras. Imagine-toi donc. Jack Hughes, ça va quand même bien. En 15e rang, Coco Field, qui va bien aussi. Donc, c'est un beau repêchage 2019. Et Kirby Dack était 3e au total cette année-là. Un instant. Ouais, c'est ça. Il était 3e au total. Et puis, ben c'est ça, c'est un prospect, c'est un suspect, appelle ça comme tu veux, c'est un talent de venir. Oui, il se développe plus lentement, mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce que ça va devenir un centre numéro 1? Je ne crois pas. Je pense que Kirby Dack va être un bon centre numéro 2 pour le Canadien de Montréal. Le centre numéro 1, ça va être Nick Suzuki. Je crois plus au potentiel de Suzuki que celui de Dack, personnellement. Mais je pense que c'est un bon échange pour le Canadien. Avoir un centre de cette grandeur, cette grosseur, c'est très bon. S'il peut amasser des points, une cinquantaine de points, moi, 50-60 points, moi, je en serais très heureux. Sur ce, je fais une pause. On revient avec l'ineffable Roger Yingang pour sa chronique Aliment Passion. Retour à la jasette du barbu. Puis là, ben, t'as entendu l'intro de mon ami Roger Yingang. C'est l'heure du segment Aliment Passion. Salut Roger.
Salut barbu, comment ça va?
Ça va très bien. Puis toi, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Toujours dans ton magnifique studio?
Oui, oui, le très grand et chic studio Aliment Passion, ouais.
Et voilà! Beau cadre de poivrons en passant.
Oui, merci beaucoup. Oui, oui, oui.
Très original.
Oui, on est très content que ce podcast soit audio seulement.
Hey, premier sujet aujourd'hui pour le segment Aliment Passion, le port du Québec. Oui.
Ben, écoute, il est sorti une liste d'articles sur les agriculteurs du Québec là, dans la presse là, la semaine passée. Dont un sur le port du Québec et son président. C'est tout ce que ça veut dire. On fait de l'épicerie avec toi et moi et tout le monde. Quand il y a l'étiquette port du Québec, est-ce que tu sais, à part le fait qu'évidemment le port est fait au Québec, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie?
Ben, j'imagine que c'est comme le... Ça doit être certifié, personne ne peut en faire, mis à part eux, quelque chose comme ça.
Ben, c'est qu'ils ont quand même certains standards, et puis j'ai quand même trouvé ça très intéressant. Le port du Québec, parmi les 5 plus gros exportateurs de porc au monde, sont parmi ceux qui font avec l'énergie la plus « clean ». C'est les gaz à effet de serre sont réduits de 45% par rapport aux autres pays exportateurs. Wow. Et au niveau là de l'eau usée, c'est 25% de moins que dans les autres pays. Donc, il y a vraiment une très grande différence. Aussi, les animaux doivent être, là, somme toute, là, en liberté pour que les animaux puissent bouger, ce qui permet là, que le port du Québec ait une viande beaucoup, beaucoup plus tendre là, que les que d'autres pays exportateurs là, qui n'ont pas cette mentalité-là. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que, oui, on se doute bien là, que le port du Québec est fait au Québec, mais ils ont quand même certaines... on s'assure quand même là, d'une viande un petit peu plus écologique, d'une viande un peu plus éthique puisque l'animal puisse bouger. Donc, on ne fait pas juste engager des produits d'ici, on encourage des pratiques qui vont vraiment là, dans ce qu'on veut pour notre planète, dans le fond, là.
Bien, je trouve ça parce que pour avoir vu des documentaires sur le porc, un peu à travers le monde, c'est pas toujours génial, c'est pas toujours jojo ce qui se passe dans le domaine. Puis de savoir qu'ici au Québec, ben nous, on fait différemment, ben moi, ça me rend bien fier. Puis sais-tu quoi, ça me dit, crime, quand je vais acheter mon porc, je vais m'assurer qu'il y a un tag Porc du Québec.
Oui, raison de plus pour acheter québécois. Je trouve ça extrêmement intéressant. Puis je trouve ça un peu triste encore une fois là, que les agriculteurs font tous ces efforts-là. Ils ont cette reconnaissance-là et puis c'est absolument pas su. Moi, honnêtement, même si je suis dans le milieu, on m'aurait dit là, le porc du Québec, moi j'aurais dit, mais c'est du porc qui est fait au Québec, that's it, that's all.
Ah, c'est
Mais il y a
ça.
quand même un standard assez intéressant. Là, fait que faut vraiment mettre ça de l'avant. Donc, il y a quand même une batterie d'articles, comme je vous dis, là, ceux qui sont un petit peu habiles là, avec la presse là, électronique. Des articles sur des agriculteurs là, de toutes sortes là, qui sont sortis la semaine dernière sur la presse. Vraiment intéressant, là, toutes sortes de monde, des gens qui font pousser des légumes. Mais là, je trouvais ça que pour la part du Québec, c'était quelque chose que quand même pas mal tout le monde connaît. Je trouvais ça vraiment intéressant là, d'essayer de mettre ça un peu en valeur. Encore une fois, là, un gros plus pour les produits d'ici. Je pense qu'on est en avance des autres, puis on se le dit pas assez.
Ah, c'est bon, ça, se donner des tapes sur les épaules, des fois, fait du bien. En parlant de tapes sur l'épaule, parle-moi donc du festival de bière de Waterloo que moi, personnellement, je ne connais pas.
Oui, ben moi, évidemment, c'est parce que c'est proche de ma région natale. Moi, je suis natif
Exact.
là, de Bromésicois, donc Waterloo est dans les villes à côté, là, pas en banlieue, mais un petit peu plus loin de Granby. L'industrie de la bière au Canada, j'ai eu des chiffres, c'est quand même intéressant. C'est 163 200 jobs au Canada qui sont reliés au monde de la bière.
Wow.
L'économie de la bière est quand même assez intéressante. Pour 1 $ dépensé sur la bière au Canada, c'est 1,12 $ qui est remis dans l'économie canadienne. Donc,
Aïe,
mine de rien, c'est quand même un rendement intéressant pour acheter local. On fait énormément de bière ici, donc là, c'est évidemment pas très difficile. Il y a tellement de choix que c'est intéressant. Aussi, festival de bière, là, on vient d'en passer un là, à la fin de semaine du travail là, qui était très, très gros là, à Chambly, qui a
ah
finalement
oui.
pu là, reprendre son air après la pandémie. Là, j'ai vu ça, c'est la 5e année du festival de la bière à Waterloo. C'est juste sur une journée, c'est quand même assez petit. Le 24 septembre, c'est quand même assez petit, mais ce qui est intéressant, l'entrée est gratuite. Souvent, dans
Wow.
ce style de festival-là, là, tu as une entrée d'une vingtaine de dollars, puis tu repays après. Là, c'est un petit peu plus petit, mais l'entrée est gratuite. Fait qu'après ça, si tu veux juste aller fouiner, aller faire un tour, jaser, prendre des informations, ben, ça va te coûter ton déplacement seulement. Donc, c'est non négligeable. Donc, le festival de bière de Waterloo, là, sur la place du Centenaire, le 24 septembre, c'est de midi à 11 h le soir. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Si j'ai une chance, je vais essayer d'aller faire un tour, là. Il y a, entre autres, justement, les brasseurs là, de la région là, qui sont présents. Ils ont aussi, là, j'ai vu qu'il y avait quelques distilleries, évidemment, quelques producteurs aussi. Donc, ces festivals de bière-là, c'est pas juste la bière, c'est vraiment là, agroalimentaire là, en général, évidemment. La bière est de la même, mais on peut trouver des petits bijoux des fois.
Ben, je vais regarder aussi. Peut-être que je vais y aller aussi le 24 septembre. Ben, oui, je te tiendrai au courant, mais ouais, ça peut être intéressant. Puis gratuit en plus, l'entrée.
Ben,
Ben,
l'entrée est
si ça
gratuite,
me
comme je te dis,
tente.
là. Avec les plus gros festivals, là, évidemment, il faut qu'ils payent probablement le spot où ils doivent exploiter là, le festival.
Exact.
Donc, vu le fait que c'est un petit peu plus petit, que l'entrée est gratuite, bon, c'est juste une journée, mais je pense qu'il doit avoir quelque chose d'intéressant. Puis le fait que c'est un peu plus petit aussi, il doit avoir un petit peu plus là, le côté convivial pour jaser un peu plus avec ce monde-là. Moi, j'aime bien ça, voir ces gens-là, d'où est-ce quand je les connais pas, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ça a commencé. Fait que je pense que ça peut être quelque chose là, si on est foodie, amateur de bière. D'après moi, là, c'est une place là, où on peut triper.
En parlant de fouilles puis d'amateurs de bière, parle-moi donc de. Je t'ai demandé de me faire une suggestion de bière. Puis là, tu vas me parler du Le Sage Brasseur de Cowansville.
Oui, on en avait glissé un mot là, à la dernière capsule
Oui.
Aliment Passion. Ben, écoute, c'est Le Sage Brasseur, c'est la microbrasserie qui est à Cowansville, ma ville natale. Le gars a vraiment, et pas un gars de la place, là. Je pense que c'est un gars des Laurentides.
OK.
Je suis d'ailleurs en train de travailler là, pour avoir une grande entrevue alimentation avec ce gars-là. Là, je trouve que c'est un gars
Oh.
qui a un parcours extrêmement intéressant. Donc, petite primeur, là, probablement, là, peut-être pour le mois d'octobre ou pour l'automne, là, une entrevue
Intéressant.
avec le fondateur de Le Sage Brasseur. Le gars, il n'est pas du tout, je pense qu'il vient des Laurentides. Et il a fait ses études. Il y a une partie de ses bières qui portent des noms qui sont très, très typés là, de l'histoire de Cowansville. Donc, comme je t'ai parlé la dernière fois, là, il y a la Coco Beach, qui est le surnom que les gens donnent là, à la plage là, qu'on a à Coindu, qui est en fait la plage d'Avignon. Et la bière que je vais te parler aujourd'hui s'appelle la Brock Mills. Si je te dis Brock Mills, toi, est-ce que ça te dit quelque chose?
Absolument pas.
Absolument pas, parce que c'est quelque chose d'extrêmement typé de Coindu. Moi, la première fois que j'ai été à la microbrasserie Le Sage, j'étais avec ma mère et mon petit bonhomme. On peut manger aussi sur place, là, c'est pas un okay. bar, c'est vraiment une microbrasserie. Donc, on a été souper là pour prendre une bière. Et j'ai vu ça, ma mère a travaillé dans une shop toute sa vie, qui à la fin s'appelait la Consoltex, qui était une industrie textile. Mais au début, quand elle a commencé à 19 ans, cette shop-là s'appelait la Brock Mills. C'était une très grosse shop. Il y avait plusieurs milliers d'employés. C'était un très gros employeur. Ça a été très central là, au niveau là, de du développement de ces années-là là, de Cowansville. Donc, il a trouvé le nom d'une shop qui n'existe plus, même la Consoltex. La shop pour laquelle ma mère a travaillé jusqu'à sa retraite a fermé il y a au-dessus de 10 ans. Donc, le gars a vraiment fait ses recherches parce qu'il y a pas, c'est pas comme s'il y avait la pancarte de la Brock Mills là, quand tu rentrais à Coindville.
Ben non.
Ce nom-là n'existe plus là, depuis presque 50 ans. Donc, il a fait une colche, donc une bière à 4,4% d'alcool, très légère. Bon, on voit dans les colches, là, c'est des bières très typiques là, de la Cologne. Puis, j'aime beaucoup les bières que le Serge Brasseur fait. Il est un peu vraiment dans mon genre. Il n'est pas de genre à infuser 83 saveurs. Il reste okay. vraiment très, très fidèle au type de la bière. Donc, si vous voulez une bière blonde, légère, colche, céréale, à 4,4% d'alcool, très intéressant. La Brock Mills, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Une bière à laquelle je vais donner la cote de 3,75 sur 5. Une bière très simple, très fraîche, mais dans l'exécution, j'aime beaucoup, beaucoup qu'est-ce qu'il fait. Comme je te dis, là, un petit plus, là, pour ça a donné la peine d'avoir trouvé là, des noms historiques ou qui sont très, très, sans être historiques, comme la Coco Beach, des choses qui sont très typées de la ville. Donc, il a su là, s'assurer que sa microbrasserie respire Coindville et parle Coindville, là, même si c'est pas un gars de la place. J'ai trouvé là, que c'était un très grand respect là, au niveau de la business.
Absolument. J'aime ça l'idée de s'approprier le coin en mettant des noms typiques de la place de Coindville là, dans ce cas-là. Je trouve que c'est un beau geste, puis ça démontre son intérêt pour ce coin de pays-là.
Ben, je pense que ça démontre aussi, là, effectivement, le sérieux. Là. Il ne s'est pas installé à Coindville parce que c'était le local le moins cher. Là. Clairement, là, il a décidé que le portrait l'intéressait et qu'il était prêt à s'investir parce qu'il aurait bien pu donner le nom qu'il voulait à ses bières. Là. Il n'y a pas personne qui en aurait voulu. Mais écoute, puis c'était pas certainement pas la première fois qu'il brassait de la bière de sa vie. On s'entend, il aurait pu dire, ben, mes bières s'appellent la même, puis d'habitude. Mais écoute, il s'est installé, puis il a donné des noms qui sont, comme je te dis, là, très typés, là, la Coco Beach, la Brock Mills. Et non, je pense que c'est la maison Nisbet qui était une espèce de maison où il y avait tous les trucs là, général de la ville, là, comme un peu comme la pas une royauté de la ville à ce moment-là, là, mais des nobles au moment de la fondation de la ville qui ont fondé beaucoup de grandes choses. Donc, beaucoup de noms là, qui sont vraiment ça. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, l'implication qu'il y a eu dans la ville, puis que ça fait environ 2 ans là, qu'il est là, je pense que ça va être un gros, gros plus. Là, puis je pense qu'il va s'installer là pour y rester pour un bon bout de temps.
Bien, longue vie à lui, puis à eux autres. Puis on leur souhaite bonne chance. On sait que c'est un milieu facile. Puis encore merci, Roger, pour cette chronique. Tu satisfais les foodies qui écoutent la jasette du barbu. Puis ça, on aime ça. Veux-tu plugger tes réseaux, s'il vous plaît?
Bien, certain. Le podcast Alimentation est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous allez voir toutes les photos de ce que je vous parle, ainsi là, que les liens vers les pages des compagnies, des producteurs que je vous parle. Vous voulez trouver le podcast, on est présent absolument partout. Évidemment, les grandes chaînes de podcasts faciles, là, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sinon, on est absolument partout. C'est la beauté de la chose. Juste à taper podcast Alimentation. On va être là, vous écoutez, ça se fait très bien, un petit 30-40 minutes, et vous allez avoir vos suggestions foodies là, pour la fin de semaine.
En terminant, que tu dis d'habitude quand tu termines?
C'était Roger, le Crazy Chef, qui vous rappelle, arrêtez de faire des recettes et cuisiner.
Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires.
Vous êtes toujours dans l'épisode 372 de la jasette du barbu. Prochain sujet, C'est la grosse bataille entre Radio-Canada et TVA pour le 19h en semaine du lundi au jeudi. C'est la bataille, je te dirais, du District 31. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, le monde télévisuel. C'était archaïque. C'est des dinosaures, c'est de la préhistoire. Là, District 31, c'était un train qui roulait à pleine vapeur pendant des années, une quotidienne du lundi au jeudi. Là, on veut recréer ça avec deux émissions. Stat à Radio-Canada, laquelle je vais te parler, et L'Indéfendable à TVA. Bon, on commence par Stat à Radio-Canada, qui remplace évidemment District 31 du lundi au jeudi. Stat nous présente le quotidien des membres du personnel de l'hôpital Saint-Vincent de Montréal. On découvre quatre postes de longue date qui occupent des positions bien différentes. Emmanuel Saint-Cyr, Suzanne Clément, chef de l'urgence et urgentologue, Philippe Dupéré, qui est joué par Patrick Labbé, psychiatre, Isabelle Granger, qui est jouée par Geneviève Schmitt, chirurgienne générale et intensiviste, et Éric Perron, Stéphane Rousseau, préposé aux bénéficiaires. Les quatre se côtoient autant à l'intérieur de l'hôpital qu'à l'extérieur, autour de soupers bien arrosés. La petite bande est encore sous le choc du départ de François, l'amoureux d'Emmanuel et meilleur ami de Philippe, mort un an plus tôt dans des circonstances nébuleuses. Fait que, t'as vu, il y a des gros canons, là. On a sorti des gros canons, les Patrick Labbé, les Stéphane Rousseau. Donc, eux autres, ils comptent là-dessus du lundi au vendredi, puis ça commence la semaine prochaine, le 12 septembre. Puis là, après ça, t'as l'Indéfendable. Indéfendable, du lundi au vendredi, nous plongera dans l'univers du cabinet Lapointe McDonald et son équipe de défense criminelle. Un univers réaliste construit de drames humains, du plus petit au plus grand, tout empreinte de la même émotion, la peur d'être condamné. Puis, si je peux me permettre, on va regarder Indéfendable. Qui joue là-dedans? Là aussi, on a sorti les gros comédiens. Là. Je veux dire, au Québec, c'est ça. C'est souvent les mêmes. Là. Bon, comédien. Bon, il y a Sébastien Delorme. Il y a Anne-Élisabeth Bossé. Michel Lapierre. Bon, tu vois, c'est moins des gros noms. Ah, il y a Christian Bégin aussi. Mais c'est moins des gros noms que peut l'être la série Stat. Mais quand même. Donc, ces deux séries-là vont s'affronter nez à nez à 19h. Ça a toujours été ça, le combat entre Radio-Canada et TVA. Le combat sera intéressant. Moi, je ne suis pas très TVA dans la vie, je dois le dire. Je suis plus Radio-Canadien. Et j'ai toujours apprécié les séries Radio-Canada. On en parlait justement avec ma blonde hier. Je vais suivre Stat. Je t'en donnerai des nouvelles. Je vais te dire ce que j'en pense, mais pour l'instant, j'ai un préjugé défavorable pour ce que les deux diffuseurs essayent de faire, c'est-à-dire, c'est une affaire de cash, c'est sûr, c'est reprendre le train de District 31 et essayer de rouler là-dessus. Mais District 31, c'était District 31. Moi, j'ai pas suivi. Les gens ont beaucoup aimé, c'était très apprécié. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de reproduire le même engouement, le même hype. Mais ça, c'est pas gage de succès. C'est comme quand on écrit un livre, un texte, on fait un podcast. On n'a pas de contrôle là-dessus. Le monde aime ou le monde n'aime pas. Mais j'ai hâte de voir. Ceci étant dit, il va y avoir la bataille du dimanche entre Guillaume Lepage et son Tout le monde en parle, sa messe du dimanche, et la nouvelle émission à TVA de Stéphane Bureau. J'ai hâte de voir ça. Et il va y avoir la bataille du lundi au vendredi à 19h, l'Indéfendable ou Stat. Puis toi, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas-tu être plus l'Indéfendable dans le milieu juridique ou tu vas être Stat dans le milieu hospitalier? Ça m'intéresse de savoir. Tu peux me dire ça via tous mes réseaux sociaux, évidemment, ou via mon Patreon, c'était Patreon, ou sinon via mon barbu de ville, @commercial.gmail.com. Puis en passant, je t'invite, si tu veux supporter un créateur, un auteur, un conteur, un écrivain, un créateur de contenu. Puis si tu veux continuer à avoir du contenu, supporte le Barbu de Ville via mon Patreon à partir de seulement 3 $ par mois. Voilà. Sur ce, je te souhaite le plus beau jeudi de ta vie. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, voie RH, la paye. C'est simple, Luc Normand, CPA.